Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les hommages affluent du monde entier après la mort de Shimon Peres, celui qui avait été ministre de la Défense, des Affaires étrangères, Premier ministre et président israélien. S'est éteint cette nuit à l'âge de 93 ans, 7 décennies dans la vie politique. Sa mort signe la fin d'un lien avec les pères fondateurs de l'État israélien. Barack Obama rend hommage à un homme d'État dont l'engagement pour la sécurité et la recherche de la paix était fondé sur son inébranlable force morale et sur son indéfectible optimisme. En France, le Premier ministre Manuel Valls salue en Shimon Peres une conscience pour l'humanité. François Hollande rend lui hommage à l'un des plus ardents défenseurs de la paix et un ami fidèle de la France. Mais pour Leila Shahid, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, Shimon Peres restera l'homme qui n'a pas mis en œuvre les accords d'Oslo.
Il y a eu plusieurs Shimon Peres, aussi l'homme qui a été, l'image, comme vous le dites d'ailleurs, l'image respectable, cosmopolite, internationaliste et plutôt laïque d'Israël. Il y a eu plusieurs personnages, parce que comme tous les grands hommes politiques, il est complexe. Mais pour les Palestiniens, il restera l'homme qui n'a pas mis en œuvre les accords d'Oslo, celui qui n'a pas su succéder à Yitzhak Rabin après son assassinat, celui qui a d'ailleurs perdu les élections face à Netanyahou, et pour cette raison-là, il a été décevant pour les partisans de la paix palestinienne, mais aussi israélienne. Et puis surtout, l'homme qui a, au lieu de continuer à défendre le parti travailliste, a choisi d'aller avec Ariel Sharon dans Kadima, le parti que Sharon a fondé après 2005, à la surprise de tous, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait encore une chance que le camp de la paix en Israël, les travaillistes, Meretz, tous ces gens-là qui avaient cru dans Oslo avaient besoin d'un leader. En politique, on ne peut pas faire de la politique si on n'a pas un dirigeant. Ils avaient besoin d'un dirigeant après l'assassinat de Rabin. Et au lieu d'être leur dirigeant dans l'opposition, il a préféré rejoindre le poste de ministre des Affaires étrangères et il a pensé lui-même, parce que je lui ai demandé à Paris comment lui, fondateur d'Oslo, pouvait devenir le ministre des étrangères d'Ariel Sharon. Et il m'a dit, je vais le changer de l'intérieur du gouvernement. Je pense que celui qui a changé l'autre, c'est plutôt Sharon qui a changé Peres en faucon. Et il a ouvert la route à Netanyahou, qui est à son troisième mandat comme Premier ministre et qui a tué les accords d'Oslo.
Leila Shahid, ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. Elle était interrogée par notre consoeur Fabienne Saintès sur France Info. L'armée syrienne dit avoir pris le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep, mais après plusieurs jours d'intenses bombardements, le chef des casques blancs syriens craint, lui, un massacre. Il affirme avoir dénombré 1700 frappes menées par les aviations syriennes et russes, des frappes qui auraient fait un millier de morts et de blessés depuis la semaine dernière. En France, l'État devrait dépenser 7,4 milliards d'euros de plus en 2017 que cette année. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, avant de présenter le projet de loi de finances pour l'an prochain. Une hausse des dépenses en raison des mesures destinées à financer de nouvelles priorités comme la lutte contre le terrorisme. Le déficit budgétaire de l'État, l'une des trois composantes du déficit public, avec celui de la sécurité sociale et celui des collectivités locales, devrait lui légèrement reculé pour atteindre 69,3 milliards d'euros. Michel Sapin, qui a qualifié par ailleurs ce matin d'irresponsables les candidats à la primaire de la droite, qui promettent des baisses d'impôts immédiates et qui proposent également de reporter à plus tard la maîtrise de la dépense publique. Et toujours dans cette primaire de la droite ce matin, le député Les Républicains de la Drôme, Hervé Mariton, dont la candidature à la primaire a été invalidée. Hervé Mariton a annoncé son soutien à Alain Juppé. Et pour finir ce journal, un peu de légèreté, le Grand Palais présente une exposition événement autour de l'œuvre d'Hergé, Tintin, au mur du prestigieux musée parisien. C'est une première, Jean-Christophe Augier.
Attention, ce n'est pas une exposition Tintin, mais bien une exposition Hergé qui s'ouvre aujourd'hui au Grand Palais. Des premiers travaux publicitaires du dessinateur belge Georges Remy, son vrai nom, à ses toiles abstraites des années 70. Mais comment ne pas penser surtout au jeune reporter à la houppe et à sa famille de papier. D'ailleurs, c'est écrit dès l'entrée « Tintin m'a rendu heureux ». François Rivière, co-auteur de Hergé Intime.
Hergé n'était pas quelqu'un de très démonstratif. Il était à la fois heureux et un peu intrigué par l'énorme succès que son œuvre avait emporté, et c'était pas de la fausse modestie. Il a fait Tintin une marque, enfin Tintin a fait de lui un artiste comblé.
L'essentiel de l'exposition réside effectivement dans les crayonnés foisonnants, les planches en noir et blanc ou en couleur où l'on retrouve Milou, Haddock et les Dupont. Les originaux vont ravir les fans et comme 33 ans après la mort du maître de la ligne claire, il n'y a plus de nouveautés à offrir aux enfants, l'hommage officiel, même s'il s'adresse d'abord aux adultes, devrait relancer en 2016 l'intérêt pour Tintin, icône incontournable du XXe siècle.
Et l'expo Hergé au Grand Palais à Paris se tient jusqu'à la fin du mois de janvier. Le temps de ce mercredi 28 septembre, il est ensoleillé dans la moitié sud du pays, mais maussade au nord. Les températures maximales comprises entre 22 et 25 degrés sur la moitié nord du pays, 26 à 28 dans le sud. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal de la rédaction, c'est à midi et demi avec Antoine Mercier.